De 13h à 14h sur Vivacité, la semaine Viva avec Christophe Grandjean.
Et vous, comment se passe le déconfinement pour vous? Retour au travail, retour peut-être des enfants à l'école, retour dans les magasins, reprise progressive des contacts sociaux, retour partiel à la vie normale en quelque sorte, et pour beaucoup de monde sans doute un sentiment de soulagement, comme une bulle d'oxygène après 2 mois de confinement. Mais ce sentiment de liberté retrouvée, tout le monde ne le partage pas. Certaines personnes ne parviennent pas à se déconfiner de peur d'attraper le Covid-19. On appelle ça parfois le syndrome de la cabane ou le syndrome de l'escargot. On va expliquer ce phénomène dans quelques instants avec une spécialiste, mais avant cela, le témoignage d'une dame qui a souhaité rester anonyme, elle ne parvient pas à se déconfiner étant donné que le coronavirus circule toujours.
La situation n'a pas changé, c'est toujours la même chose, donc moi ça m'angoisse beaucoup de reprendre une vie normale, de recommencer à avoir des gens, aller dans les magasins où il y a des gens qui ne portent pas de masque parce que le masque n'est pas obligatoire, à frôler des gens. À quoi ça sert que je retourne au travail? Parce que moi, ça m'angoisse. Comment on va manger ensemble? On a l'habitude de s'asseoir tous à une table, on a une petite cuisine commune. Comment on va faire? Les toilettes, la propreté des toilettes, elles sont pas nettoyées tous les jours. On fait comment?
Bonjour Evine Joss.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et psychotraumatologue à l'université de Metz, en France. Elle n'a pas tout à fait tort, hein, cette dame qu'on vient d'entendre. Le coronavirus, il est toujours là, donc ses craintes... On peut les comprendre, les partager.
Oui, tout à fait. Hein. Les gens ont l'impression d'avoir une épée de Damoclès, affronter un ennemi invisible. Donc, effectivement, il y a une certaine réalité. Alors, ce qu'on remarque quand même chez les personnes qui souffrent du syndrome de déconfinement, c'est surtout une accentuation de ces peurs. C'est-à-dire que ces peurs sont plus élevées que le risque réel.
Pourquoi ces personnes ne parviennent-elles pas à sortir de chez elles? Qu'est-ce qu'elles ressentent?
Alors, c'est en général les personnes qui sont anxieuses à la base, avant le confinement et donc avant le déconfinement. Donc, effectivement, elles ont peur de la contamination pour elles-mêmes, pour les autres. Elles ont peur de perdre le contrôle aussi, hein, puisque chez elles, elles ont le contrôle. Elles sont dans une bulle, je dirais, sécurisante. Donc, en fait, faudrait faire comme le petit prince, quoi, c'est-à-dire réapprivoiser l'autre qui est perçu comme dangereux. Il y en a d'autres qui ont peur de la foule, du bruit, de l'agitation. Donc, c'est vraiment de cette vie du quotidien qui leur fait peur. Puis il y a aussi pas mal de gens qui ont peur du monde d'après, puisque ce ne sera plus jamais quelque part comme avant, en tout cas pas avant un certain temps. Et donc les masques, la distanciation sociale, les queues dans les magasins, eh bien ça rappelle en fait tout le temps le danger. Donc ce sont des mesures qui sont là pour nous sécuriser. Et chez ces personnes-là, en fait, ça active l'angoisse parce que ça rappelle le danger. Alors, elles ont aussi peur d'elles-mêmes. Hein, par exemple, il y a des personnes qui disent « Moi, je préfère ne pas sortir, je préfère ne pas voir mes enfants ou mes petits-enfants parce que j'ai l'intention de ne pas les prendre dans les bras. Mais qu'est-ce qu'il va en être quand je serai confrontée à la réalité? Est-ce que je ne vais quand même pas craquer et donc me mettre en danger, éventuellement mettre les autres en danger ?»
Cela dit, on ne peut pas vivre confiné éternellement, ni même jusqu'à un hypothétique vaccin ou un traitement efficace. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se fait violence? Est-ce qu'on affronte ses peurs? Est-ce qu'on sort malgré tout, peut-être petit à petit, progressivement?
Alors je dirais qu'il y a un petit peu de tout hein, dans ce que vous dites, c'est-à-dire qu'effectivement, une partie des personnes vont pouvoir prendre sur elles-mêmes, on prend sur soi, on gère ses angoisses. Tout le monde ne va pas être capable de le faire. Donc, c'est vrai que certaines personnes auront besoin d'aller voir un professionnel de la santé mentale. Sinon, effectivement, oui, vous avez raison, le faire progressivement. Moi, je compare ça à la plongée sous-marine. On a plongé dans l'intériorité, dans notre intérieur avec le confinement. Maintenant, on doit se déconfiner, on doit sortir de cette intériorité et ressortir à l'extérieur. Et comme dans une plongée sous-marine, ça se fait par paliers. Donc effectivement, je pense qu'il faut y aller progressivement pour certaines personnes. Et je crois qu'il y a quelques conseils qu'on peut donner, c'est-à-dire que les personnes se reconnectent à un objectif. Qu'est-ce qui est vraiment important pour elles? Qu'est-ce qui les pousse à aller de l'avant? Peut-être que pour certaines personnes, et on l'entend d'ailleurs dans les médias, ça passe par donner du sens à cette expérience. Par exemple, des personnes disent « je me suis rendu compte que j'étais dans une société de consommation, je me suis rendu compte de l'impact de la consommation sur l'environnement » et qui donc ont décidé d'avoir un autre mode de vie. Donc ça, ce sont aussi des choses qui peuvent aider, c'est-à-dire de retourner au monde, de retourner à l'extérieur, mais avec une sorte de projet qui est différent. On s'habitue malgré tout. Hein. Une caissière me disait, une grande surface, au début on avait très peur, maintenant on s'est habitué. Donc je pense que si, c'est ce qu'on appelle le stress de base, hein, il y a des changements dans nos habitudes et dans notre mode de vie, ça génère un stress, comme d'ailleurs le confinement a généré un stress parce qu'on a dû s'adapter. Donc en fait, nos ressources d'adaptation sont fort mobilisées en 2 mois, d'abord pour le confinement, maintenant pour le déconfinement, mais l'être humain est absolument extraordinaire par rapport à ses capacités d'adaptation. Alors, c'est clair qu'il y a des personnes qui auront plus besoin d'aide, notamment les personnes qui sont plus anxieuses.
Il y a certains qui développent, Evelyne Joss, des rituels, des tocs comme se laver les mains. On a bien compris qu'il faut se laver les mains régulièrement. Mais de là à désinfecter les poignées de la maison à tout bout de champ, de laver ses vêtements dès qu'on les a portés un petit peu, de nettoyer les bocaux qu'on a achetés au supermarché, de laisser en quarantaine des colis qu'on a reçus par la poste, là, ça devient difficilement gérable, la vie devient impossible.
Oui, effectivement. Donc là, ça va impacter, je dirais, le bien-être au quotidien. Et là, si ça ne passe pas au bout de quelques semaines, moi, je conseillerais aux gens d'aller consulter un thérapeute. Parce qu'effectivement, la peur est quelque chose de tout à fait normal. Se laver les mains, c'est tout à fait normal. Mais on a maintenant des gens qui développent, comme vous disiez, des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs, où ils ont leurs mains et... Enfin, ils se lavent tellement souvent les mains et avec des produits tellement agressifs qu'en fait, ils ont la peau à vif. Hein, donc, aussi des gens qui prennent leur température plusieurs fois par jour. Là, je pense que c'est pas l'épidémie qui est seulement virale dans cette histoire-là, mais c'est la peur qui est virale. Hein, donc, la peur, c'est quelque chose de normal, mais je dirais que pour certaines personnes, elles se font des films catastrophes. Et là, en fait, on a une peur, une angoisse qui se surajoute à la peur.
Ce confinement, Evelyne Joss, il nous a parfois aussi apporté un certain confort. Je pensais au télétravail, par exemple. Certains y ont trouvé pas mal de positifs.
Tout à fait. Ça, je pense qu'effectivement, pour le télétravail, les gens ont découvert qu'en fait, les réunions sur Zoom ou ce genre d'application, effectivement, étaient souvent plus efficaces. On s'écoute mieux. Donc, ça dure moins longtemps. C'est plus efficient. Les personnes aussi peuvent être... en caleçon chaussette, hein, et donc en fait se sentir beaucoup plus confortable plutôt que d'être corseté dans des vêtements inconfortables. Et puis aussi effectivement leur rythme, hein, les gens peuvent respecter leur rythme. Et on s'est rendu compte effectivement qu'un certain nombre de personnes disaient, et c'est probablement effectivement le cas, qu'elles étaient plus efficaces en télétravail parce qu'elles n'étaient pas dérangées tout le temps par des collègues ou par des coups de téléphone.
De là à faire du télétravail 7 jours sur 7, c'est peut-être tomber dans un excès inverse. C'est important aussi de côtoyer ses collègues.
Oui, je pense que l'être humain est un être social et donc l'être humain a besoin des autres pour son bien-être. Donc, je pense que ce sont des circonstances particulières, mais qu'il ne faudrait pas effectivement que ces circonstances cristallisent peut-être une problématique que certaines personnes ont aussi, hein, d'être en contact avec les autres, d'être dans le rythme de travail habituel. Voilà, donc ça, je pense que il y a une espèce de juste milieu. Alors, vous savez, c'est un petit peu comme le pendule. Hein. Quand on lâche, ça fait des grands mouvements d'avant en arrière et puis ça se stabilise. Donc, je pense qu'on a peut-être été, notre société, trop dans un mouvement. Le confinement nous a fait aller tout à fait dans l'autre sens. Bon, je pense qu'après, ça va reprendre un rythme.
Une dernière chose, Evelyne Joss, des enfants sont rentrés à l'école lundi dernier, d'autres vont retrouver le chemin des classes lundi prochain, et parfois les parents sont inquiets. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces parents pour les rassurer ?
Bon, évidemment, je n'ai pas de réponse miracle, mais ce que je dis toujours, c'est que si on veut aider ces enfants, je pense qu'il faut s'aider d'abord soi-même. C'est un peu l'histoire du masque dans les avions. Hein. Il faut d'abord mettre le masque pour soi-même avant de le donner à ses enfants en cas d'accident aéronautique. Bien, je dirais ici, si on n'est pas bien soi-même, c'est peut-être déjà de trouver de l'aide pour soi-même parce que c'est en s'aidant soi-même qu'on va pouvoir le mieux aider ses enfants. Les enfants encore plus que les adultes, parce que le rythme de la vie va beaucoup plus vite. Hein. Une semaine pour un adulte, c'est comme peut-être un mois ou deux mois pour un enfant. Donc, le temps qui est passé en confinement, c'est très, très long pour un enfant. Il a besoin de retrouver des contacts sociaux. Il se développe dans les contacts sociaux. Donc, c'est prioritaire. Alors, on sait aujourd'hui, effectivement, aussi qu'il y a très peu de maladies graves chez l'enfant, qu'ils sont finalement assez peu contaminés et qu'ils transmettent assez peu la maladie. Et puis, je crois aussi qu'il faut leur dire qu'à l'école, toutes les mesures sont prises aussi pour assurer la sécurité des enfants, que les mesures sanitaires sont bien respectées. Et je dirais même qu'à l'école, on leur apprend et on leur réapprend les mesures sanitaires, je dirais d'une façon, j'ai envie de dire presque décomplexée, dans le sens où les institutrices et les instituteurs, les enseignants, ben, vont leur donner ces consignes, peut-être avec moins d'angoisse que les parents. Elles ont été peut-être plus drillées aussi à recevoir ces classes et elles se sont préparées.
Merci Evelyne Josse d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes psychologue et psychotraumatologue à l'Université de Metz en France et également en Belgique à l'ULB. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi.
Merci à vous.
La semaine Viva avec Christophe Grandjean.